Hello, hello! Installez-vous confortablement, vous êtes sur Girls Therapy, l'émission de développement personnel, un petit peu spicy, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque ici, on met un petit peu d'harissa partout et on aborde la vie telle qu'elle est. Vous êtes vraiment sur le journal intime d'une meuf de 28 ans qui est sexologue, créatrice de contenu, écrivaine et qui a juste besoin de raconter sa life et de déconstruire certaines choses de la vie. Voilà, this is all for me. Donc installez-vous confortablement. Il n'y a pas d'intro. Ici, notre musique, c'est notre jingle, c'est tu-tu-tu-tu-tu. Voilà, c'est incroyable. On aime. Je vous avais dit qu'un jour, j'aurais un truc pro. Un jour, pas maintenant. Là, on va rester sur tu-tu-tu-tu-tu parce que je trouve ça très sympathique et au moins, il n'y a pas de charge mentale parce que pour moi, le podcast, c'est vraiment ma safe place. Donc j'adore et j'adore. Et du coup, aujourd'hui, bon déjà un petit update life, je sais que vous avez adoré l'épisode avec Juliette où on parle de notre amitié, c'était vraiment assez incroyable pour moi de faire cet épisode, alors elle est venue après Marseille pour dormir à la maison une nuit, mais on n'a pas eu le temps de le faire, on était très chaude, mais on n'a pas eu le temps, vous inquiétez pas, la vie est grande, moi j'ai grave un besoin de voyager, de voir des nouvelles choses, donc j'irai peut-être au Mexique, ou en tout cas je la retrouverai très rapidement, puisque normalement elle rentre pour l'été et on fera une partie 2 parce qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter du coup. Mais en tout cas, c'était très sympa pour moi de vous parler de ça. Déjà parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça et surtout qu'on n'en parle jamais, c'est extrêmement tabou. Et j'avoue que je trouve ça un peu cringe que ça soit tabou. Donc je suis contente d'avoir encore levé un tabou et j'espère qu'on va évoluer ensemble en fait. Donc bref. Alors, petit life update. Aujourd'hui, on est mardi. J'avoue que j'ai eu genre... J'ai des journées de ouf, je mets même plus mon planning, mais je vais reprendre demain. Mais j'avoue que j'ai des journées assez ouf, là je bois mon petit café de l'après-midi. Je suis une garce, donc c'est pas du café normal, c'est du café aux plantes adaptogènes, c'est la base. C'est la marque Somush, ça coûte un peu un bras, mais bon. J'utilise un sachet pour deux cafés, désolée, ça coûte trop cher pour utiliser tout un sachet, et c'est super bon. Enfin voilà, je bois mon petit café et j'avais tellement hâte de vivre ce moment sur Girls Therapy, genre juste venir parler. Là, à quel moment je suis dans ma vie ? Alors j'ai commencé les recherches d'appart à Paris, je vais quitter mon appartement actuel, qui est très sympa, mais qui est pas du tout aligné avec ce que je recherche. Et d'ailleurs, ça m'a trop fait rire parce que j'ai un compte privé, hein, bien sûr, j'ai mon compte Amal Tahir sur Instagram, mais j'ai un compte privé pour ma vie, ma famille, mes potes. Et du coup, quand j'ai mis ça, j'ai eu quelques potes qui étaient en mode « Mais non, tu déménages, t'es arrivé à l'appart en août, pourquoi tu fais ça ?» Hey girl, vous voyez comment les gens renvoient leur peur sur nous. Attendez, j'ai un message. Je vais voir ça après. Bref, du coup, j'ai vu quelques potes qui ont réagi en mode « Meuf, tu vas pas déjà te déménager ? T'as déjà déménagé deux fois depuis que t'arrives à Paris. » Enfin, mon premier et mon deuxième appart. Et j'étais en mode « Bah si, si je suis plus alignée, je me casse. C'est une location meublée, ma belle. Je vais pas mourir. » Parce que à Bruxelles, j'ai laissé tous mes gros meubles. En fait, je suis venue qu'avec mes éléments de déco qui sont importants pour moi. Mais je n'ai pas de lit, je n'ai pas de matelas, je n'ai pas de canapé. Et c'était le but. J'ai tout revendu en quittant Bruxelles parce que j'avais vraiment envie de... Bah déjà, je savais pas. Je suis venue à Paris, je savais pas combien de temps j'allais rester. Et numéro 2, je me disais, là où il y a mes souvenirs, c'est pas sur mon canapé, c'est sur les objets. Mes vinyles, mes bougies, mes livres. Donc je me suis dit, bah, autant prendre tout ce qui est important. Toute la déco, toute la vaisselle. La vaisselle, je l'ai chinée avec beaucoup d'amour, etc. J'avais pas envie de la laisser. Mais de pas prendre les gros meubles exprès pour pouvoir partir dès que j'ai envie de partir. Et j'ai trouvé ça assez ouf comment ça trigger les gens. Le fait que tu déménages, que t'oses partir dès que t'en as marre. Et à quel point mon niveau de tolérance est égoïste. C'est-à-dire que je ne fais que des choix qui me rendent heureuse. Et là, je suis dans un appart qui est très sympa, mais qui est pas du tout aligné. Il est très très sympa, mais il est pas du tout aligné avec ce que je veux. Je me sens pas comme dans un cocon. Les énergies sont pas alignées. Et là, Mercure est rétrograde, je crois, jusqu'à fin avril. Et il y a 20 jours de chaos. Et c'est le moment de profiter de ce chaos parce qu'il va être incroyable. Je crois qu'il y a aussi une éclipse. Enfin, il y a plein d'énergies un peu folles. Et du coup, c'est vrai que je suis dans un mood... j'ai envie de kiffer Ouais, j'ai envie de kiffer un peu cette vibe où les choses changent, où vraiment c'est le bordel de Mercure qui rétrograde, parce que du coup, je sais pas, ça te fait sortir de ta zone de confort, finir ce que t'as à finir. T'es pas dans l'avance, t'es dans le vas-y, tu vois. Et du coup, bah là, je recherche un appart à Paris. D'ailleurs, si vous avez des tips, s'il vous plaît, dites-moi. Et voilà, je veux vraiment un petit cocon. En fait, mon rêve, les meufs, c'est l'appart de Carrie Bradshaw. Le truc qui fait max, quoi, 50 mètres carrés. Mais il est incroyable, genre il est hyper bien agencé. Donc je sais que c'est un rêve, mais la manifestation existe. Donc voilà. Et puis je suis dans quel mood là en ce moment? Donc ça, c'est mon premier point. On avait un peu parlé peur de l'engagement. J'ai revu ma psy aujourd'hui. Vous savez, je vous avais dit, j'ai l'impression que ma psy voulait pas en parler. J'ai pas pu en parler. J'avoue que comme ça faisait 3 semaines que je l'avais pas vue, aujourd'hui on a parlé avec ma psy de repos, de travail et du fait que je pars toute seule en vacances là dans 10 jours. Je pars une semaine dans un hôtel de fils de chacal. Je me suis vraiment pris un hôtel de ouf. Je pars pas souvent en vacances. Je pars souvent pour le travail en fait. Et là, ça fait très longtemps que je suis pas partie que pour moi. Donc je me suis réservé une semaine dans un super hôtel. Putain, vraiment, je mérite pas moins les girls. Donc je me suis pris un hôtel assez fufu. Et voilà, je vais partir. Je vais me poser une semaine et je lui parlais du fait que j'avais du mal à partir parce que il y a déjà des trucs qui tombent alors que je ne suis pas là et que j'ai du mal à. J'ai un peu la FOMO professionnelle. Et du coup, on en a parlé, c'était très intéressant. Je lui ai fait un petit peu un update parce que je lui avais dit avant qu'on ne s'est pas vu pendant 3 semaines, je lui disais que j'étais pas très à l'aise dans mon corps, enfin que je me sentais pas très bien, je passais par une mauvaise phase. Et là, je lui disais que ça allait beaucoup mieux et que j'ai juste dû rééquilibrer. Et en fait, je sais que quand je vais mal dans mon corps, c'est que je prends pas soin de moi. Je bois du café de merde, je mange des McDo, je fais de la merde en fait, tu vois. Alors que quand je suis en mode complément alimentaire. En fait, moi, les girls, pour ma santé mentale et anxieuse girl shit, j'ai besoin d'avoir un rythme, vous voyez. Dès que j'ai pas de rythme, dès que je vais pas au sport, dès que je fais pas de méditation active, dès que je fais pas toutes ces choses-là, dès que je vois pas la pluie, dès que je me pose pas à respirer, dès que je dors pas 8-9 heures par nuit, ça y est, je me sens pas bien dans ma peau. Donc voilà, je lui ai parlé de ça, ma psy, elle est en mode je comprends, elle m'a donné des trop bons conseils. Et du coup, j'ai envie de parler de ma relation amoureuse avec elle. Je le ferai à la prochaine séance. Je sais pas si elle va être prête, mais en tout cas, moi, j'ai bien envie. En tout cas, ma relation amoureuse avec Monsieur Big, elle se passe bien, dans le sens où. Dans le sens où. Oh! Ah merde, attendez. J'ai une réponse de ouf parce que j'essaie de louer un hôtel pour un shoot que je rêve de faire. Qu'est-ce qu'il me dit? Avez-vous? Je demanderai par la suite à notre DA concernant le shooting. J'ai pas besoin de votre DA. Ok. Bref, je vais répondre après, tant pis. Attendez. Attendez. Je fais vraiment des trucs en live. En fait, les filles, j'essaie de réserver un hôtel sur. Attendez, je fais un vocal à Céline qui travaille avec moi. Coucou Céline, je suis en plein podcast, donc voilà, tu passes sur Girls Therapy. Est-ce que tu peux répondre au monsieur parce que je suis en train d'enregistrer un podcast? Est-ce qu'on peut lui dire que j'ai pas encore réservé, mais que je vais le faire dès qu'il me confirme que je peux faire le shoot? Et que j'ai pas osé confirmer parce que j'ai peur qu'ils me disent non. Et une des raisons pour lesquelles j'aimerais venir à l'hôtel, c'est aussi faire des photos, quoi. Merci. Voilà, petit vocal à Céline qui travaille avec moi. Coucou Céline, t'es ma star. Bref, du coup, voilà. Qu'est-ce que je vous disais, les girls? Je sais même pas ce que je vous disais. Ah oui, je vous disais que bah voilà, j'aimerais bien parler à ma psy de ma relation avec Monsieur Big. J'aimerais bien un petit peu parler de tout ça, de ma peur de l'engagement, etc. Mais en fait, je trouve des réponses graves toute seule. Et je vous disais, pour moi, c'est vraiment qu'en fait, quand t'es perfectionniste, rien n'est assez bien pour toi et rien n'est assez mauvais pour toi. Donc en fait, t'es un peu dans la salle d'attente de ta vie, tu vois. T'es un peu dans une salle d'attente, il y a l'ancien toi, le futur toi, et tu sais pas où aller, tu sais pas comment, et du coup, tu sais pas comment glow up mentalement, tu vois. Et c'est vrai que moi, je pense que j'étais un peu dans cette phase-là, enfin, j'y suis encore, où je me dis, je sais pas. Est-ce que je suis dans un mood? En fait, j'ai arrêté de me prendre la tête en fait par rapport à ça. Je vous ferai un autre diary par rapport à ça, mais en tout cas, je sais que je suis un peu en mode bon, j'ai un peu peur de l'engagement, mais il y a d'autres réflexions qui s'ouvrent, donc je vais voir. Je vous tiens au courant. Mais sinon, la vie en ce moment, elle est douce, mais elle est intense. Je fais beaucoup de choses pour le travail et je suis contente là. Je sais pas si vous avez remarqué sur mon compte Amaltair, je vous propose grave une belle DA qui me ressemble. J'ai enfin osé montrer. Genre vous savez que j'ai confiance en moi, mais parce qu'on en parle beaucoup. beaucoup, vous me connaissez, vous m'avez vu dans podcast, en story, en conférence, devant des milliers de personnes, je suis très à l'aise, mais me montrer moi, mon style, ma puissance, mon côté, j'ai jamais osé vraiment. Regardez mon feed maintenant et avant, dites-moi quoi, envoyez-moi des DM là, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre de ouf, puis à côté de ça je travaille sur Cherry Edition, la marque de papeterie, je suis en train de créer le carnet de l'amour, donc voilà, c'est un peu doux, mais en même temps c'est assez trash, je vais pas mentir, mais bref, c'est pas grave. Et voilà, j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte de vous partager mes petites vacances, ça va être très chill, je vais bronzer toute la journée, je vais me faire des petits déj, je vais boire du champagne, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, interdit au moins de 18 ans, mais voilà. Et aujourd'hui j'avais envie de revenir un peu en arrière, je vais faire un podcast que vous m'avez beaucoup demandé, c'est Amal, c'est quoi les galères quand t'es une meuf rebeu, tu sors avec des rebeux. Vas-y, on va en parler, vous savez quoi, on va en parler, c'est pas que j'ai pas voulu en parler, c'est que je ne veux pas faire croire à des gens bizarres là que je suis en train être raciste envers mon propre peuple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que ça peut arriver aussi. Et moi, c'est pas mon but, mais c'est en fait parler du statut de la femme maghrébine. C'est un statut qui est pas facile, qui est pas celui d'une femme. Il est déjà pas facile, mais en plus en tant que femme maghrébine, il peut être encore plus compliqué pour plusieurs raisons. Alors vraiment, il y a plusieurs choses, mais je pense que déjà, il y a, moi, en vrai, toute ma vie, j'ai toujours dit je kiffe les rebeux et tout, genre vous savez qu'on avait un peu ce style, machin, j'avais pas envie d'être spécialement dépaysée, vous voyez ce que je veux dire, j'étais en mode, je pense que je vais sortir qu'avec des rebeux, puis j'étais attirée physiquement, parce qu'on va pas se mentir, les mecs chez nous, ils sont hot, moi pour ceux qui se demandent, je suis marocaine, ce qui m'a valu beaucoup de commentaires négatifs de la part d'hommes maghrébins sur mes posts, maroco-chienne, beurette, plein de mots horribles, 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 horrible en tant que femme rebeu. J'ai trouvé ça un peu violent et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que c'était les mecs rebeux qui étaient le plus violents avec moi. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, à accepter et à analyser. Et au début, en sortant avec des mecs rebeux, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs choses. Putain, je sais pas par où commencer, j'ai rien préparé comme d'hab. Mais en fait, vous voyez, quand j'ai commencé à sortir avec des mecs rebeux, au début, j'avoue, je me posais pas trop de questions. Pour moi, c'était logique et surtout, la première étape, on va faire étape par étape, la première étape de ma vie amoureuse et de sortir avec des mecs rebeux, c'était notamment de me faire valider. Je le savais, personne me l'avait dit, mais je savais que j'avais intérêt à être une fille bien. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais inconsciemment, je l'avais sécrété, intégré. Je sécrétais n'importe quoi, je crois que je suis une hormone ou... Mais j'étais en mode, ok Amal, t'as intérêt à être une fille bien. Donc souvent, j'allais mentir sur plein de choses. Genre, je sais pas, tu connais, t'es jeune, tu fumes des clopes. Fumer aussi, c'est très mauvais pour la santé et interdit au moins de 18 ans, je crois. Donc voilà. Mais par exemple, à l'ancienne, tu fumais des clopes, etc. Et ben, le mec, il disait ce que tu fumes. T'étais en mode, non, pas du tout. Tu sortais un peu, t'avais ton adolescence qui commençait à gratti grata. Et du coup, t'étais un peu en mode... Voilà. Et petit aparté, ici, je vais pas parler de religion. C'est pas mon domaine. C'est-à-dire que moi, je ne parle jamais de religion. S'il y a bien un sujet que je n'aborde jamais, c'est ça. Donc ici, mes sujets n'ont rien à voir avec la religion. Je parle vraiment du statut de la femme maghrébine, tout en laissant de côté, peu importe. Et maghrébine, ça veut pas dire musulman. Ça veut dire plein de choses. Musulman, feuge, chrétien, catholique, bouddhiste. Voilà, la religion n'a rien à voir avec l'origine. Sachez-le bien. Et du coup, ça, c'est même pas un sujet. Moi, je veux vraiment parler du côté maghrébine. Comme je vous disais, il y a une première analyse à faire sur le fait que déjà, être une femme maghrébine n'est pas facile. N'est pas facile. Je suis désolée, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que tu vas être fantasmée. En même temps, tu dois être parfaite. Tu dois avoir une validation familiale. Tu dois avoir une validation... En fait, déjà, c'est compliqué parce que, en vrai... Les parents, même les parents des personnes non arabes, eux-mêmes ont des traumas parce que la génération d'avant, elle était chum. Genre, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas abordées dans la psychologie, dans les émotions. Mais encore plus chez les rebeux, parce que même si, on va pas se mentir, on a une culture de ouf. Enfin, moi, je suis très fière d'être fille d'immigrée. Vraiment, immigration, genre, vraiment, c'est très bien. Et d'ailleurs, je rappelle ici de temps en temps que les gens, quand ils quittent la France pour aller vivre en Australie, non, vous n'êtes pas expat, vous êtes immigré, d'ailleurs. Je sais que j'aime bien le rappeler parce que j'entends parfois des gens qui disent « Ouais, je suis expat ». Non, non, t'es immigré, tu immigres dans un pays. Ça s'appelle de l'immigration et il n'y a rien de mal. Donc bref, moi je suis très fière d'être fille d'immigrée. Voilà, là je vais pas parler du positif, mais il y a beaucoup de positifs. Moi ça m'a construit en fait, c'est mon identité. Jusqu'à mes 18 ans, je voulais refaire mon nez. Je l'ai jamais refait parce que pour moi il incarne. J'avais vu un chirurgien qui m'avait dit vous voulez une chirurgie ethnique, et je me rappelle j'étais en mode non en fait, je veux pas que tu changes ça. Genre I am Moroccan, I am proud about. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas 100% marocaine, mais une grande partie, et j'ai baigné énormément dans cette culture. J'ai baigné dans plusieurs cultures, mais la marocaine en fait partie. Et du coup, c'est vrai que je vais être totalement transparente et honnête avec vous. Pourquoi ? Je le suis tout le temps, mais pourquoi ? Là, je voulais être honnête et transparente, je ne sais plus. Bref, et du coup, c'est vrai que je trouve qu'être une femme maghrébine, parfois, c'est d'autant plus compliqué. Je ne vais pas vous mentir, dans le milieu de la création de contenu, c'est aussi compliqué. Quand tu es à ton compte et que tu as une image, les gens ont très peur de quelle image tu vas renvoyer. Les gens ont très peur de, tu vois, enfin, ils vont toujours préférer bosser avec une blonde aux yeux bleus qu'avec toi. Donc déjà, ça, voilà, la femme maghrébine, comme la femme noire, va être à l'opposé des standards de beauté européens. Tu voyais ce que je veux dire ? Et en plus, c'est des femmes qui sont extrêmement fétichisées tout le temps. Voilà, vous savez que dans les sites, en fait, il y a beaucoup de gens qui tapent beurette, femme noire, machin, machin, machin. Donc il y a vraiment un vrai problème de fétichisme qui se fait, et il y a toute une partie de mecs blancs qui sont en mode putain j'ai trop envie de me taper une arabe, je ne suis pas une expérience sociale chérie, donc ça c'est un peu compliqué déjà. Et de l'autre côté, il y a ce truc de la femme bien, et il y a ce truc générationnel de nos parents, même s'ils sont des étoiles et qui sont incroyables, il y a des lacunes, tu vois. Et parfois, moi, clairement, tu vois, il y a des gens qui me disaient « Ouais, reste vivre chez tes parents, tu vas faire des économies. » Mais en fait, le loyer, tu le payes pas en argent chez tes parents, mais pour beaucoup, on le paye en santé mentale. Même s'ils sont incroyables. En fait, vous voyez, même si les darons sont iconiques, il y a des choses qui vont pas. Faut le dire. Faut avoir les couilles de le dire. Faut pas juger. J'ai fait un podcast avec Mima by Camille il y a pas longtemps, qui est une femme exceptionnelle. J'ai hâte que le podcast y sorte. Et avec Mima, on parlait de ça. Je sais pas si c'était en on ou en off. Je crois qu'on l'a enregistré. Mais elle disait que, en fait, les parents, tu dois les voir comme des personnes. Tu dois poser ton jugement comme si pas c'était ta mère ou ton père. C'était une femme, un homme, lambda. Qu'est-ce que tu penserais d'eux, tu vois, si tu les verrais dans leur vie familiale, etc. Moi, je me dirais que c'est des gens exceptionnels, mais qu'ils ont des lacunes émotionnelles. Ils ont des lacunes émotionnelles qui m'ont impacté aussi. Et c'est pas grave, mais c'est la vérité, tu vois. Un peu de café aux plantes adaptogènes. Non, je rigole, j'aime trop. En fait, c'est trop un trait de ma personnalité maintenant, du boire du café aux plantes adaptogènes, donc je le dis à tout le monde. Non, mais c'est vrai. Et du coup, il y a ce truc où t'es un peu en mode « Oh, waouh !» genre. What the fuck, il y a des trucs un peu culturels, que ça soit même les oncles, les tantes, etc. Il y a vraiment ce truc culturel de tu dois être une fille bien. Donc moi, honnêtement, quand je parle que de moi, quand j'ai commencé à dater des mecs rebeux, je datais que des mecs rebeux quand j'ai commencé à dater, j'étais dans un mood, déjà attendez, parce que quand j'étais en Italie, j'étais trop rebeux pour tout le monde. Hein. J'ai embrassé un mec en Italie, genre, je pense, et je crois que j'avais déjà embrassé un mec au Maroc. Ouais, je crois que mon premier bisou, c'était au Maroc, je sais plus. Mais genre, en Italie, j'attirais personne, les gars. Mettons-nous tout de suite d'accord. I am Moroccan. Même si j'étais pas grosse, j'étais mince, je reste Moroccan. Donc, en grosse, encore moins. Mais en plus, Moroccan, c'est mort. Donc voilà, et j'ai commencé à dater quand je suis arrivée à Bruxelles. En plus, c'était là, j'avais 17-18 ans, c'était le moment. J'ai commencé à dater des mecs et tout. Et en fait, je mentais. Je mentais clairement, parce qu'en fait, t'as l'impression que rien n'est assez bien pour eux et que rien n'est assez bien, tu dois respecter des règles, etc. Moi, je faisais grave semblant de savoir cuisiner, etc. Mais en fait, je suis en mode, frère, j'aurais aimé revenir en arrière et leur dire, je suis absolument pas cuisinée. Mais par contre, tu vois, j'ai d'autres atouts dans la vie, tu vois. Je suis une femme, j'ai plein d'atouts. Je fais des études, j'aime lire, j'aime la peinture. J'ai plein d'autres atouts. Et tout ce que je vais dire là, c'est pas pour... Vous voyez, c'est un podcast très compliqué à faire parce qu'il y a plein de warnings à mettre. Et c'est important qu'on parle de sujets sensibles. Mais j'ai rien contre les femmes au foyer, vraiment, qui savent cuisiner, etc. Je m'en fous. Vraiment, je m'en tape. Moi, c'est pas parce que je suis dans un truc girl boss, dynamique, nanana, que j'ai quelque chose contre ça. Pour moi, je crois que le salaire estimé d'une femme au foyer de 7000 euros, si on devait estimer son salaire, tellement elle bosse, donc j'ai rien contre, mettons-nous tout de suite d'accord. Mais c'est juste que moi, c'était pas mon mood, tu vois ce que je veux dire, c'est pas mon fucking mood. Et quand j'ai commencé à dater des mecs, je voulais un peu me faire passer pour cette meuf-là, tu vois. Et je me rappelle d'ailleurs, à un moment, je datais un mec, j'allais débuter mes études de sage-femme, et lui, il était en spé pédiatrie, tu vois. Et moi, ça y est, j'étais partie, j'étais en mode, ça y est, le mec pédiatre, moi sage-femme, powerful couple, etc. Il était très beau, il était très, 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 très beau. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas encore Ken, je n'avais pas encore fait ma première fois, et c'était pas spécialement c'était pas spécialement parce qu'on m'avait dit de pas le faire, c'était plus particulièrement parce que j'avais pas trouvé la bonne personne et que je me sentais pas de le faire. Voilà, tout simplement, je n'étais pas prête. J'avais trop de peur, trop de questionnements, je suis une perfectionniste donc j'en souffrais un petit peu. Attendez, j'ai une réponse pour l'hôtel, une autre. Ah, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui pour le shooting, je crois, un autre hôtel. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ça sera avec plaisir pour shooting. Vous souhaiterez shooter exactement? Avez-vous un budget ou recherchez-vous un échange? Ok, trop bien. Je vais voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Pardon, je disais que désolée, mais j'attends trop une réponse par rapport à l'hôtel. Je suis trop stressée de ne pas avoir d'hôtel pour mon shooting du 11. Je prie. Donc, bref, qu'est-ce que je disais? Et du coup, voilà, j'avais juste pas Ken parce que franchement, j'étais pas prête, j'avais la flemme. Et puis, je suis trop perfectionniste. Donc, je suis en mode, je veux des pétales, je veux des trucs, nanani, nanana. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais voilà. Mais du coup, en fait, à ce moment-là, quand j'étais des mecs rebeux, c'était grave un atout le fait que j'avais pas Ken. Et je me rendais pas compte à quel point je l'utilisais pour me faire valider à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que j'allais utiliser le fait que j'avais... Ah, attendez, Céline m'a envoyé une réponse. Bon, je regarderai après. Et j'ai peur parce qu'il est 16h45, j'ai peur que les gens terminent de bosser. Attendez, j'envoie un message à Céline pour lui dire... Ben, dis-lui qu'en fait, je serais chaude de pas spécialement dormir à l'hôtel. Enfin, si je peux venir juste le 11 pour le shooting, c'est parfait. Voilà. Et voilà, je lui envoie un petit message. Voilà, désolée les filles, vous gérez avec moi en même temps. Mais du coup, c'est vrai que j'étais en mode, ok, j'utilisais grave cet atout d'être vierge, en fait. Vierge aujourd'hui, j'y crois pas trop au mot vierge. Enfin, je pense qu'il est important pour certaines meufs, donc il faut le garder. Mais qu'en vrai de vrai, ça veut tout et rien dire, tu vois. Et du coup, je l'utilisais grave pour plaire aux mecs rebeux. Je savais qu'avec eux, ça fonctionnait, que ça mettait déjà un truc sur leur tête. Et du coup, je me rappelle que voilà, j'étais en mode, je l'utilisais de ouf et je parlais avec ce mec qui allait être pédiatre, tu vois. Donc on se date, on se parle, mais on s'était jamais vu, mais on parlait énormément. Et moi, quand je me suis fait mes copines en arrivant en études de sage-femme, je leur ai dit, mais go, c'est le mec de ma vie, je vais le marier, en fait, je l'aime. Alors que pas du tout. Et j'étais en mode, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... En fait, j'étais une bad girl dans le fond, donc j'étais en mode putain, il y a trop de beaux gosses en fait ici et tout. Et un jour, j'avais cours d'anatomie. C'était donc du coup sur le campus vraiment médecine. Et du coup, je sors de mon cours et là, je fais quoi? J'allume une clope. Fumer est dangereux pour la santé, est interdit au moins de 18 ans. Ceci n'est pas une pub pour la cigarette, au contraire, c'est juste une story time. Et du coup, je suis en train de fumer une clope et là, le mec, il arrive. Vous savez, on est jeune et tout, on fume des clopes dès qu'on peut. Enfin. Pas tout le monde, mais en tout cas, à cette époque-là, moi, je pensais que c'était comme ça. Genre, on fume des clopes, on parle, on raconte nos vies, tu coco. Et là, le mec arrive. Genre, je l'ai jamais parlé, genre, tu vois ce que je... Si, non, oui, on s'est jamais parlé en vrai. On se parle depuis genre un mois et demi, tu vois. Et le mec arrive, et là, je panique tellement. Je jette ma clope. Et là, je dis aux meufs, vous vous rendez pas compte, je suis dans la merde, s'il a vu. Et là, mes potes, elles font des calculs en mode, non, il t'a pas vu. Et là, j'ai envie de retourner à cet âge-là, me dire, Mamel, tu crois que c'est ton gros daron ou quoi? Genre, calme-toi. Mais en fait, pour moi, tu vois, si j'étais avec un blanc, je ne me serais pas dit ça. Mais là, je me dis, s'il va voir ça, parce qu'à l'époque, il y avait grave des trucs qui tournaient. Genre, les mecs rebus ont toujours aimé, on ne va pas se mentir, mettre en story des bails. Genre, les meufs qui fument, c'est les meufs faciles. Moi, je me rappelle, je datais un mec qui m'avait dit, tu sais ce qu'on dit, hein, meuf qui fume, meuf qui baise. J'étais en mode, ah. Enfin, genre. Plein de trucs comme ça, mais tellement misogyne, genre... Et je sais que, bien sûr qu'il y a d'autres, genre les blancs, des blancs qui pensent comme ça. Mais à ce moment-là, moi, je voyais que des rebeux penser comme ça face aux femmes rebeux parce qu'ils étaient beaucoup plus indulgents avec des femmes blanches, tu vois. Et du coup, ben, en fait, j'avais trop peur. Je me disais, tout ce que je fais, ça va être mal interprété, machin. Enfin, j'étais vraiment, vraiment mal dans ma peau. Et du coup, après, on avait été genre parler avec ce mec et tout. Enfin, j'avais trop peur qu'il m'ait cramé. Mais bon, après, chacun a fait sa life, en vrai. Et on a arrêté de se dater. Je sais même plus comment, mais voilà. C'était finito pipo, mais j'étais super stressée, genre. Voilà. Et du coup, je datais des mecs rebeux. Et je me rappelle même, vous savez, quand je suis arrivée en étude de sage-femme, j'avais, au loin, j'avais remarqué qu'il y avait un mec que j'avais daté, avec qui j'avais fait un peu des bails, tu connais. Et je l'avais vu parler à plein de mecs qui étaient dans mon campus. Et là, les filles, j'étais terrorisée. Je me suis dit, en fait, ce mec, moi, je pensais qu'il était loin de moi dans une autre école. Il est dans le même truc que moi parce qu'il a grave des potes en médecine. Il était en ingénieur, je crois, ou un truc comme ça. En fait, il va leur dire. Il va leur dire que je suis une fille facile, que je suis une pute, enfin, vous voyez. Alors que c'est pas une insulte, putain, aujourd'hui, on est tous d'accord. Mais à l'époque, c'est ce que je me disais, je me remets dans ma tête à l'époque, vous voyez. Et en fait, c'était hyper dur parce que je me disais, mais pardon, en fait, je vivais avec trop, trop de pression. Je devais être une fille bien, faire des études, savoir cuisiner, alors que je détestais cuisiner. Et c'est pas genre... Là, on parle pas de tous les mecs rebeux, on pourra jamais faire de généralité. Mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. C'était comme ça, c'était vraiment, tu sais cuisiner, t'es mariable, t'es pas mariable, t'es mariable, t'es pas mariable, t'es mariable, t'es pas mariable. C'était tout le temps des challenges extrêmement durs pour une femme. Et c'était une souffrance continue, en fait, de toujours vouloir être la femme bien. Et en même temps, eux, ils faisaient les 400 coups, en fait, c'était les plus gros hypocrites de la Terre. C'est-à-dire que toi, t'étais en PLS tout le temps. Mais en fait, je me disais, genre, je date ce mec-là, il m'a dit, ouais, j'aime trop parce que toi, t'as jamais ken, etc. Moi, je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais lui dire, en fait parce que je n'osais pas lui dire que j'avais jamais Ken juste parce que j'attendais la bonne personne, mais merci, je savais pas quoi dire, merci parce que j'ai jamais Ken, enfin je savais pas, genre j'étais perdue, tu vois, alors que lui, genre tous les week-ends était avec une meuf différente et c'était pas grave. Et cette hypocrisie là, elle m'a rendue dingue, tu vois. Et je crois que c'est une différence qui est culturelle, je dirais culturelle, mais des mentalités des mecs, en fait, tu vois. Personne, je pense, qu'il est d'accord avec ça, c'est juste eux, en fait, qui sont d'accord avec ça, qui ont créé leur propre truc, tu vois. Et du coup, c'était extrêmement dur, en fait, d'évoluer comme ça et de, à chaque fois, devoir cacher une partie de soi-même, vivre dans cette misogynie. Vous savez, il y a de la misogynie noire, de la misogynie arabe. Et cette misogynie spécifique des mecs rebeux envers les meufs rebeux, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue, mais je m'en rendais pas compte. Mais je me disais, la charge mentale que j'avais, je voulais absolument paraître pour une fille bien. Je m'amusais pas parce que j'avais trop peur d'être jugée. J'avais peur de trop, trop de choses. Après, je suis sortie avec un autre mec rebeu qui était vraiment incroyable. Il n'était pas trop comme ça. Enfin, on s'envoyait en l'air, clairement. On s'envoyait en l'air et pourtant, il était sérieux avec moi. Vous voyez, parce qu'à l'époque, c'était super. C'est ça qui était le danger. Je me remets encore une fois dans l'ancienne époque, il y a presque 9-10 ans. Ça date, ça passe vite. À cette époque-là, en fait, c'était ça le challenge pour les meufs, tu vois. C'était, est-ce que le mec veut être sérieux ou pas avec moi ? Parce que tu devais faire partie des meufs sérieuses, des meufs bien, tu vois. Et du coup, il y avait tout le temps ce truc de... Après, je suis sortie avec un mec rebeu avec qui, en fait, ça se passait très bien, malgré que j'étais une meuf normale, en fait, de son âge, qui sortait un peu, qui faisait la fête, qui, enfin, normale, quoi, comme tout le monde, rien de fou. En fait, je vous dis rien de fou parce que quand je vous décris, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle faisait de ouf? Ben rien, je faisais la fête, j'avais mes petites gueules de bois du week-end, j'étais un peu crevée, nanani, nanana, enfin, j'étais dans une vie normale, genre, une vie d'une jeune meuf qui fait ses études, qui est étudiante et qui fait la bringue et qui, en même temps, profite de la vie et étudie et à une vie. Point. Il n'y avait rien de fou. Du coup, j'étais en mode ok, super. C'était cool. Ça s'est fini pour d'autres raisons vraiment, on s'en tape. Mais j'étais en mode, oh waouh, genre c'était trop compliqué pour moi. Parce que j'étais une meuf normale et à ce moment-là, bah, ce mec-là était sérieux avec moi. Mais il disait bien, ouais, je suis ouvert d'esprit, machin, machin, machin. Et mes copines me disaient, ouais, t'es bien, t'es tombée sur un mec ouvert d'esprit. Enfin, vous voyez, c'était genre vraiment genre... Mais je faisais rien de ouf, hein. Mais juste, c'était ouvert d'esprit. Parce que il était pas ma première fois et que j'aimais faire la fête et que je m'ambiançais, que je partais en vacances avec mes copines. Pour elle, j'étais bien, j'étais tombée sur un mec ouvert d'esprit. Et moi, ça me stressait trop, tu vois, parce que j'étais en mode, j'ai quand même l'impression que je peux pas tout dire de qui je suis. J'ai quand même l'impression de devoir garder certaines choses. Voilà. Enfin, j'étais quand même pas très à l'aise, en fait, tu vois. Et surtout, Surtout, en fait, j'avais pas encore d'éveil féministe vraiment, mais il y avait un truc au fond de moi qui était pas aligné, en fait. Où j'étais en mode, en fait, moi, je vais pas me fatiguer avec des mecs comme ça toute ma vie, à pas assumer qui je suis, à pas incarner qui je suis, à pas incarner mon énergie. J'en avais marre, en fait, j'en avais ras le cul. Donc, j'étais en mode flemme. Et en fait, je suis sortie avec des mecs rebeux comme ça, bah pendant longtemps. En fait, tout le début de ma vie, c'était qu'avec des mecs rebeux parce que j'étais attirée que par ça. C'est ça que je trouvais hot. J'avais 22 ans, 21 ans. Donc en fait, pour moi, ce qui était intéressant, c'était que le mec soit hot, en fait. Et j'étais en mode, bah, trop bien, c'est des mecs hot qui font des belles études en place et tout. Nanani, nanana. En veux-tu, en voilà, des dentistes, des médecins, des ingénieurs. J'étais en mode, trop bien, en fait. Ça m'ambiance de ouf. Mais en fait... il y avait toujours un truc qui n'était pas aligné. Il y avait toujours un truc qui n'était pas aligné. Par exemple, moi, je ne suis pas spécialement pro-mariage. Ça dépend avec qui. Mais à l'époque, je ne pensais pas du tout à me marier. Enfin, genre, non. Limite, je pouvais dire ça en rigolant, genre, ouais, mon mari, mais genre Brad Pitt, tu vois. Et c'était des mecs très sérieux par rapport à ça. Moi, je veux me marier, ma femme. Il y a ma femme. Enfin, genre, voilà. Et en fait, à un moment donné, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai eu un plan cul de genre, franchement, 4 ans avec un mec. Un rebeu, avec qui, vas-y, c'était... En fait, de base, c'était ma première fois, ce mec-là. On a arrêté de se parler pendant X temps, et puis on s'est revus. On s'est revus pendant quelques années, et c'était très hot, on va pas mentir. C'était très bien, c'est très sympa. Mais ce qui était cool aussi, c'est que je pouvais parler avec lui de tout ça. Enfin, comme on n'allait absolument pas sortir ensemble, ben en fait, il pouvait vraiment me dire ce qu'il pensait. Et en fait, pour lui, c'était clair, en fait. Il y avait des meufs, c'était des putes. Il y a une meuf, c'était une meuf bien. Ça allait être sa femme, avec qui il allait faire des enfants. Nanani, nanana, nanani, nanana. Pour lui, un mec, ça trompe. Pour lui, un mec... Mais en fait, pourquoi les mecs comme ça trompent? Parce qu'ils assouvissent pas leurs désirs. Je me rappelle quand je travaillais au Carrefour, j'étais étudiante au Carrefour, il y avait un mec qui avait genre la trentaine, qui lui était genre boulanger du Carrefour. Vous voyez, il y a des stands sushi, boulanger, viande, et lui faisait la boulangerie. Et je m'entendais super bien avec lui, c'était un mec rebeu, il était drôle, il était sympa, etc. Même si parfois il était un peu déplacé, enfin pas avec moi, avec une copine à moi. Et un jour, je sais que je lui parle et on parlait de sexualité. Et là, il me dit, moi, par exemple, tu vois, ma femme, il avait 2 enfants. Il me disait, moi, ma femme, elle va jamais me faire des fellations, tu vois. Et j'étais en mode, mais pourquoi? Et il me disait, bah, parce qu'elle embrasse mes enfants. Il m'a saoulé, frère. Oh, quand il m'a dit ça, j'ai envie de le monter en l'air. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, voilà, mais pour lui, c'était comme ça, en fait. C'est qu'il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien. Nanani, quand t'as envie de faire des dingueries, tu vas chez des TDS, t'es des travailleuses du sexe. Ouais, mais les travailleuses du sexe, tu dois les respecter aussi, parle bien, quoi. Tu vois, il m'énervait un peu, tu vois. J'avais pas encore toute cette éducation aussi par rapport au TDS, etc. Mais j'étais en mode, pardon, enfin, genre, ça me choquait. En fait, ça me choquait et j'étais un peu en mode, putain, mais c'est quoi cette construction? Pourquoi on tombe là-dedans à croire qu'il y a des femmes bien, des femmes moins bien, etc., etc. Après, bien sûr. Nous, les meufs, on a nos critères pour les hommes. Ils ont aussi le droit d'avoir leurs critères. Mais eux, leurs critères, ils prennent de la place de fou. C'est-à-dire que nous, les meufs, quand on veut un mec drôle, ambitieux, il n'y a pas des mèmes, il n'y a pas des pages, il n'y a pas des Snapchat autour du fait qu'on veut des mecs ambitieux. C'est pas un mouvement. Mais eux, le fait d'être une fille bien et une femme pas bien, c'est un vrai mouvement. C'est un vrai truc qui rentre dans la tête des jeunes filles. Et c'est un vrai truc que tu traînes toute ta vie en te disant, il faut absolument que je sois une fille bien. Mais en fait, tu peux être... Enfin, que tu sois une fille ou un mec, t'es censé être quelqu'un de bien, tout simplement. C'est ce que tout nous, enfin c'est pour ça tout nous apprend ça en fait. Le monde d'habitude, enfin normalement, vous savez, je le dis toujours, mais le monde tient grâce à l'amour, grâce à la bonté des gens. Donc en fait, t'as intérêt à être bon et quelqu'un de bien. Mais eux, ce qu'ils veulent dire avec meuf bien, on va pas faire semblant de pas les comprendre. C'est vraiment genre t'es vierge, tu fumes pas, tu bois pas, tu sors pas, tu fais pas la fête, tu fais nanani, tu fais nanana, tu fais nanana. Et c'était chiant. En fait, c'était super chiant. Parce que, en fait, alors je mets de côté là le côté religieux, comme je vous dis, ça me regarde pas, ça me concerne pas, c'est pas du tout le débat que je veux avoir, je suis pas spécialiste, enfin voilà, c'est pas du tout mon domaine, que ça soit islam, juif, chrétien, c'est pas mon domaine, c'est pas à moi de venir ici expliquer, etc. Ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà eu des débats avec des copines qui me disent, ouais, mais c'est normal, tu vois, parce que en même temps, si il dit qu'il veut une meuf, genre vierge, qui fume pas, qui boit pas, c'est parce que bah, c'est dans sa religion et il veut appliquer ça dans sa religion. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça c'est vrai. Si c'est tes règles dans ta religion, bah vas-y, je comprends, tu vois, c'est comme si t'es feuge et tu veux quelqu'un qui mélange pas le lait et la viande, t'es en mode vas-y, ou quelqu'un de pratiquant qui fait shabbat et tout, nanana, ou si t'es chrétien et tu veux quelqu'un qui va à la messe le dimanche et qui respecte les règles de sa religion. C'est un mood, t'es en mode voilà, toi t'as ta religion, t'as tes règles, et t'as envie de sortir et de te marier avec quelqu'un qui a les mêmes règles que toi. Ça c'est ok, je le comprends, je l'accepte. Mais ce qui me dérange quand dans cet argument, ce qui m'a toujours trigger, c'est que de un, pourquoi tu fais pas ça, toi? En fait, c'est juste ça. C'est juste les débats que j'avais avec ces mecs-là. C'est que quand ils me disaient, moi, tu vois, moi, ma femme, elle va être comme ça, elle va être comme ça, elle va être comme ça. Mais frérot, t'as un bédo dans la main droite, une bière dans la main gauche, tu sors, tu viens de revenir de ton date avec ton plan cul, frérot, tu sors en boîte ce week-end, tu me fous la race, et je leur disais ça, tu vois, quand j'ai commencé à me dire, ouais, ils me foutent la haine, en fait, ces genres de mecs-là, je vais plutôt discuter avec eux pour les comprendre, ils me disaient, ouais, mais moi, je suis un homme, tu vois, et j'étais en mode, oh, waouh, le problème, c'est qu'ils ne laissent pas l'erreur, ils ne laissent pas, parce que, imaginez, on prend le truc religion, et genre, c'est en mode, ouais, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, tu l'es pas du tout. Ce qui va me déranger dans ce cas-là, c'est ton intolérance envers une femme. C'est-à-dire que si tu te maries avec une meuf et qu'un jour, elle fait une erreur par rapport à ce que vous, vous considérez comme erreur religieuse, ou que, vas-y, je sais pas, elle est dans un état émotionnel tel, 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 ben, en fait, ça veut dire quoi? Tu vas la quitter? Tu vas dire qu'elle te fait honte, nanani, nananan. Et c'est des concepts qui me dépassent, moi. Genre, ça veut dire que ces mecs-là veulent sortir avec des poupées qui ne font jamais d'erreurs, qui ne remettent jamais en question leur religion, parce que je sais pas, mais je suppose que quand t'es religieux, etc., ça t'arrive de remettre en question des choses, des principes, de te poser des questions. Après, bah, je suppose que la foi est forte et que du coup, tu vas toujours retrouver le chemin que toi, t'estimes être le bon chemin, mais... Genre, t'as pas le droit de te poser une question, t'as pas le droit d'avoir peur, t'as pas le droit d'avoir des je sais pas moi, des moments difficiles avec ta religion, t'as pas le droit de... tester une chose et la regretter après, te dire non, en fait, c'est pas du tout aligné avec ma religion, donc je vais nanani nan. T'as pas le droit de réfléchir et de faire comme ça, quitte à ce que ça parte en couille, enfin, genre, flemme, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que ça, je pense que c'est de 1, enfin, de 1, ça fait 30 minutes que je parle, mais ça, c'est déjà l'hypocrisie. L'hypocrisie et la misogynie rebeu qui a fait que j'étais en mode, oh, j'ai plus envie de les dater, en fait, genre, j'ai plus envie de les dater. Des rebeux, je parle vraiment des rebeux, attention, faites pas l'amalgame, je parle pas de gens religieux. Rebeux musulmans, rebeux feu, rebeux chrétiens, je m'en bats les steaks, je parle de tous les rebeux. J'étais en mode, en fait, vous m'avez saoulé avec cette hypocrisie un peu, vous pouvez faire pas les meufs, et surtout cette misogynie où vous mettez la pression aux femmes pour qu'elles soient parfaites, pas parfaites, nanani, nanan. Et puis en fait, moi, je me suis retrouvée à ce stade où j'étais trop rebeu pour les blancs et trop blanche pour les rebeux. Et ça aussi, ça m'a cassé les ovaires. Le fait tout simplement que il y ait ce truc de par exemple, parfois, moi, je datais des rebeux. Et ce qu'ils me disaient souvent, c'est « Toi, tu fais trop la blanche. Hein. » J'étais en mode « Comment ça ?» Je comprenais pas. J'étais en mode bah, « Je comprenais pas. » Vraiment, sur le moment, je comprenais pas. Après, j'ai bien sûr lu plein de livres, compris plein de choses. Et j'ai bien compris qu'en fait, il y a toute une partie des mecs racisés qui estiment que quand une meuf lit des livres, se balade au parc, prend des week-ends, voyage, nanani, nananan, fait plein de choses qui sortent de ce qu'on imagine pour la femme maghrébine, qui est d'ailleurs parfois trop pauvre, on imagine vraiment des choses pauvres, genre on imagine que les femmes maghrébines sont quoi? Un fantasme? Un objet sexuel? Genre on doit être là, juste belle, machin? On n'est pas que ça, enfin on peut être très hot, mais on n'est pas que ça. Dès que tu fais des activités considérées comme de blanc, il y a un mec qui vient pour te dire tu fais trop ta blanche. Pourquoi est-ce qu'on estime que les activités un peu haut de gamme, basiques aussi, hein, lire un livre, ça coûte pas cher, mais je veux dire, les activités qui sont un peu considérées comme haut de gamme sont des activités de blanc. Pourquoi? C'est ça le problème, c'est que du coup, on continue à perpétuer ce truc de les trucs de blanc. Mais en fait, non. Même écouter des podcasts, ouais, tu fais tes trucs de blanc. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que ça serait des trucs réservés aux blancs? Parce que c'est des trucs intellectuellement stimulants? C'est ça? Je comprends pas. Ça, c'est un truc qui m'a aussi beaucoup dérangée quand je me suis rendu compte que j'étais trop rebeu pour les blancs et trop blanche pour et trop trop rebeu pour les blancs et trop blanche pour les rebeux. Où je me suis dit merde. En fait, le truc c'est que moi, je suis moi quoi. Je suis moi avec mes différentes facettes et je m'aime comme ça et j'ai envie de faire plein de choses. Et du coup, ça m'a un peu trigger. J'étais un peu en mode waouh. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu saoulée. Franchement, j'étais un peu en mode. En fait, tout ce que tu fais, c'est considéré comme faire la blanche. Alors, en fait, on va pas leur laisser uniquement aux blancs, genre, les activités intellectuellement stimulantes, en fait. Enfin, on a le droit de le faire, on a le droit de vivre. Les femmes maghrébines savent lire, savent peindre, savent faire plein de choses de leurs deux petites mains. C'est des femmes brillantes, donc on va nous laisser tranquilles. Merci beaucoup. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça très... très rabaissant en fait, et ça m'a vraiment saoulée. Il y a un moment où j'ai recommencé à dater des mecs rebeux. Donc au début, j'étais vraiment la victime qui essayait de rentrer dans des cases dans lesquelles je ne rentrais pas, mais pour plusieurs raisons. Et puis, c'était cette case où, en fait, mon background, entre autres italien, avoir vécu à Venise, Milan pendant 18 ans, ça se ressentait par plein de choses. Vous le savez, pour celles qui ont été en Italie, c'est pas très loin de la France, mais vous savez, ben voilà, c'est un pays où la culture, la nourriture, la mode sont très centraux. Et du coup, en fait, ce qui était relou, c'est que ça se ressentait dans ma manière d'être, dans ma manière de vivre. Et ça les dérangeait. Et j'étais en mode, why? Et même quelqu'un qui est né à Bruxelles ou qui est né à Paris, enfin... La France est aussi un pays très riche en culture, en nourriture, en vin, en ce que tu veux. Donc, dès que tu es connaisseuse dans un domaine, dès que tu as envie d'aller manger autre chose que ce que eux te proposent, non, tu vois. Et puis, il y a plusieurs trucs qui m'ont saoulée à proprement chez les mecs rebeux, c'est ça, en fait. C'est que la plupart d'entre eux, bien sûr, pas tous, mais il n'y a pas d'activité intéressante. C'est-à-dire que le mec, non, il ne va pas peindre. Ils ont cette espèce de... homophobie bizarre où tu vas leur dire viens on prend un cours de danse, tu crois que je suis gay ou quoi? Oula, bug du système monsieur. Il y en a beaucoup qui sont en fait qui s'enferment dans un truc, qui s'enferment dans une place, et ça je me doute bien que c'est aussi à cause du racisme, où ils vont s'enfermer dans une place que la société leur a donnée, de mec qui est là, qui tient les murs, qui nanana. Mais en fait non, il y a plein de mecs rebeux qui sont sortis, ils ont beau avoir grandi dans des cités nanani nanana, déjà les cités fun fact, moi j'y ai grandi, c'est pas genre des endroits où tu n'as pas de cerveau et tu ne peux pas évoluer. Non, pas du tout. Alors c'est des zones industrielles où la France a décidé de mettre les immigrés quand ils leur demandaient de venir pour reconstruire la France, mais ce n'est pas du tout un endroit où tu ne peux pas... Bien sûr, tu pars avec un background social qui est différent d'autres, mais il y a des gens qui ont fait des choses incroyables et ça ne veut rien dire. Mais il y a beaucoup d'hommes, et ça je comprends que ça puisse être à cause du racisme, qui décident de rester à cette place basique. Mais du coup, qui ne s'ouvrent pas assez l'esprit. Je suis désolée, qui ne s'ouvrent pas assez l'esprit. Et moi qui va à la conquête du monde, et je pense que vous êtes plein dans mon cas, non, d'être un mec qui ne veut pas peindre parce que c'est un truc de gay, désolée, je n'ai plus l'âge, je n'ai plus le temps, quoi. Vraiment. Et qui ne veut jamais sortir de sa zone de confort, qui rentre dans un système où tous les jours c'est la même chose, non, tu vois. Donc ouais, ça nous fait plaisir. Franchement, ça nous fait plaisir quand on voit un mec rebeu qui fait des activités intéressantes, mais moi j'ai déjà parlé avec des mecs rebeux musulmans, pas musulmans, feuge, pas feuge, chrétien, pas chrétien, qui viennent de plein de religions différentes, mais en tout cas j'ai déjà parlé avec beaucoup de mecs rebeux maghrébins qui me disaient moi ma cité je l'aime, genre, enfin j'ai grandi, j'ai plein de bons souvenirs, mais aujourd'hui je suis content, en fait j'ai fait mon chemin, mes parents m'ont poussé, j'ai fait des études, je me suis ouvert l'esprit sur plein de choses, j'ai voyagé à d'autres endroits que les endroits qu'on voit sur Snapchat, j'ai fait plein de trucs J'ai voyagé, j'ai fait des longues études, etc. Alors bien sûr, on part déjà nous, que t'es habité en cité, dans un HLM, dans un appartement, peu importe, t'es déjà favorisé par rapport à d'autres enfants dans le monde. On est né, on savait écrire, on savait lire. Voilà, la méritocratie n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas plus tu travailles, plus tu réussis. On a tous des privilèges. On n'est pas parti de rien. Moi, je suis pas parti de rien. Je suis parti de deux parents qui ont donné leur life pour que je puisse bien vivre. Je suis parti en ayant la chance au droit aux études. Je suis parti, j'ai pu aller à l'école. Il y a encore plein de femmes dans le monde qui ne vont pas à l'école. Donc, on a des droits. Alors, bien sûr, le racisme est encore là. Il empêche plein de choses. Mais on a des droits. On en a. Et on part de quelque chose. On part pas de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que moi aussi, dater des mecs rebeux comme ça, non. Dater des mecs rebeux qui sont en mode... qui s'ouvre au monde, mais s'ouvrir au monde, ça veut pas dire trahir sa culture, ça veut juste dire que, désolé, quand t'invites, quand tu dis à un mec, ouais, viens, on va dans ce resto et tout, oh non, je connais pas, c'est un truc de blanc. Mais pourquoi? Parce que le resto étoilé, c'est un truc de blanc. Pardon, mais le nombre de chefs du monde arabe étoilé, il y en a beaucoup, my life, calme-toi. Donc voilà, mais c'est vrai que ce truc coincé, moi j'en avais marre de ce truc date, voiture, nanani, aller au resto du coin de chez lui ou peu importe, resto dégueu, tu connais, mélange bizarre, machin, etc. Nanana. Et surtout, j'avais l'impression que la validation masculine était trop présente quand tu dates des rebeux. Et... moi, en tout cas de mon expérience, quand j'étais des rebeux, que je faisais comprendre clairement que le mariage, c'était pas ma priorité, que j'étais là pour chiller, pour me découvrir, pour bâtir ma carrière, pour faire mes études, et why not me marier, mais avec quelqu'un qui me convient, mais en fait, ça les choque. Mais quand je vous dis que ça les choque, sa mère. Ils sont en mode, mais quoi? Genre, je comprends pas. Ils ont, parce que quand je parle, quand j'étais en mode, mais pourquoi ça te choque? Ils étaient en mode, je sais pas, moi, toutes les meufs que j'ai datées dernièrement, elles sont en mode, écoute, on va pas se dater longtemps avant qu'on se marie, etc. Ben, ok. Il y en a pour qui c'est important, il y en a pour qui c'est pas. Il y en a pour qui c'est pas important. Arrêtez de nous mettre tous dans une même case. Et ça, c'est parce que les hommes croient que les femmes, c'est toutes les mêmes. Elles disent oui, elles disent non, mais ça veut dire oui. Voilà pourquoi ils écoutent pas le consentement, ils écoutent pas nos histoires. Ils ont l'impression que c'est toujours la même chose. Et j'en ai déjà parlé avec plein de mes potes rebeux qui sont en mode, bah en fait, ouais, parce qu'en fait, t'as l'habitude, tu sais ce qu'elles vont dire les meufs. Elles veulent se marier, elles veulent des enfants. Et oh, tout le monde veut ça. Il y a plein, enfin, tout le monde, mais beaucoup de gens veulent ça. Il y a des blancs, des asiates, il y a plein de gens qui veulent se marier, faire des enfants, il n'y a pas de problème. C'est pas uniquement la seule chose que tu veux faire dans ta life, tu vois. Il y a plein de choses que tu peux vouloir faire dans ta vie, dont ça. Mais c'est pas, tu dois pas mettre les meufs dans une case. C'est très compliqué. Et du coup, je suis passée par ces étapes-là où, au début, comme je vous disais, j'étais en mode, valide-moi, valide-moi, valide-moi. C'est vraiment hyper important. Puis, je suis passée à la, donc, je mentais, je me cachais, je disais pas qui j'étais, je cachais parfois même mes origines, ma culture, mes cultures, j'étais vraiment très mal à l'aise. Puis à une espèce de truc où j'étais en mode vide, genre il me saoulait, c'est tout. Donc j'ai déjà eu des plans cul rebeux, etc., avec qui ça se passe très bien parce que bon voilà, quand même ils sont très hot, mais quand on parlait, ils me parlaient sans filtre. Et je vais vous dire, j'ai eu des plans cul, des mecs rebeux dont je n'étais pas au courant de base, mais j'ai appris après ou à la fin que en fait ils étaient fiancés, mariés, mais que je me suis tout fait, wesh. Putain, j'ai avalé de travers. Désolée, c'est tellement grave ce que je veux dire que je me suis étouffée. Mais qu'en fait, tellement ils étaient matrixés, c'était en mode, ouais, je préfère la tromper, tu vois. Et comme ça, elle reste vierge, etc. J'étais en mode, pourquoi faire ça? Je comprends pas pourquoi sortir du coup de... Enfin, pourquoi ne pas en parler avec elle, de vos besoins, je sais pas, moi, avancer la date du mariage, je sais pas, faites quelque chose, mais pourquoi tromper? Et tu crois qu'elle serait heureuse de savoir que tu la trompes? Non, mais ça veut rien dire, même si elle le découvre, elle sait très bien que c'est pour mes besoins. Je suis en mode, mais qui accepte ça? Franchement, qui? Alors, je sais qu'il y en a, moi, j'en ai déjà parlé avec plein de femmes qui acceptent ça, mais c'est à quel point on accepte ça? On accepte de savoir que son mec a des plans cul, des trucs comme ça, pour se dire que, bon, c'est pas grave, parce que moi, il veut me marier. On arrive au point d'être OK pour des plans cul. Bah moi je m'amusais et je passais des super bons moments quand j'avais mon fameux plan cul dont je vous ai dit pendant 4 ans, mais what the fuck, genre c'est trop bizarre, c'est très très chelou, mettons-nous tout de suite d'accord. Donc j'ai eu cette phase un peu de lassitude où je les datais mais je savais que je voulais rien avec eux, et puis il y a eu cette phase où j'ai réessayé de dater des rebeux que j'étais en mode, en fait on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment cette misogynie intériorisée qui me saoulait et qui me gonflait, et surtout cette homophobie aussi intériorisée en mode, ouais je suis pas gay, je vais pas faire ça, je suis pas gay, je vais pas faire ça, et c'était relou. Jamais sortir de sa zone de confort, c'était vraiment ce que moi je voyais le plus en fait, vous voyez. Et pourtant je suis pas contre en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi souvent je vais recevoir des messages de haters sur Instagram qui me disent, toi ça se voit que tu sors avec un blanc machin parce que t'es une blanchisée. Non, c'est pas du tout ça. Mais juste, j'en ai daté beaucoup et j'ai jamais trouvé chaussure à mon pied. C'est pas grave. J'ai daté plein de rebeux, mais qui étaient pas chaussure à mon pied. Mais parce que, en fait, il y a tout un problème de système et de misogynie intérieure. Et d'ailleurs, on le voit, ok, les femmes veulent se marier, veulent des enfants, mais il y en a de moins en moins qui sont prêtes à être avec n'importe qui pour être mariées. Avant, c'était vraiment très jeune, on se mariait vers 18, 19 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes que moi je rencontre qui sont maghrébines, musulmanes, feuges, chrétiennes, peu importe, qui sont en mode, ouais, moi j'aimerais beaucoup me marier. Mais franchement, c'est pour le faire avec des mecs comme ça, je préfère rester seule. Il y en a de plus en plus. On a eu des très hauts taux, je crois, l'année dernière et l'année d'avant, de meufs après 30 ans pas mariées. C'était, je crois, le plus haut qu'on a eu. Parce qu'en fait, il y a plein de meufs qui sont en mode, ben non, en fait, je vais pas me marier juste pour être avec un mec où j'aurai toute la charge mentale. Parce que ça, il faut le dire aussi. Ça existe bien sûr chez les blancs aussi, mais la charge mentale chez les femmes maghrébines dans un couple, elle est encore plus augmentée. Elle est vraiment sur tout, du tout, du tout, du tout. Moi, je sais que il y a des sacrifices et des efforts que parfois les femmes rebeux vont faire, que les femmes blanches ne feront jamais et que ça me gave. Par exemple, à l'accouchement. Vous le savez, j'étais étudiante sage-femme. Quand je faisais des accouchements, beaucoup de couples rebeux, etc., le mec sortait en mode, ouais, elle disait, ouais, je veux pas qu'il voit ça. Après, il va pas être attiré, il pourra me tromper et tout. On s'en bat les couilles, ma belle. T'es en train d'accoucher, tu souffres, t'as besoin de ta personne de confiance. Vous voyez, donc il y a tout ce truc aussi de charge mentale qui est beaucoup plus augmenté parce qu'ils sont pas ouverts à la discussion sur la division de la charge mentale. J'ai essayé, j'ai parlé avec des centaines de mecs sur ce sujet-là. Ils me disent tous, bah non, la femme c'est fait pour ça, elle va me faire à manger, moi je sais pas faire, elle va faire ça, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. On est autant. Alors, si elle travaille, c'est pas normal. Si par contre, je vais vous dire aussi quelque chose. Si vous gérez la maison, vous êtes femme au foyer et votre mec travaille, il fait pas tout, hein. Vous êtes à 50-50, puisque la totalité des charges qu'il y a dans un foyer, c'est entretenir la maison, les enfants, la cuisine, etc. et ramener de l'argent de l'extérieur, alias le travail. Quand vous êtes dans un couple où vous faites la partie foyer, enfant, ménage, et l'autre fait la partie travail, vous êtes à 50-50. Moi, j'entends des meufs qui disent parfois sur TikTok, oui, avec mon mari, on a 100 et 0%. Lui, il ramène l'argent, il travaille, et moi, je m'occupe juste de la maison. Non, non, ma belle, c'est un travail aussi. Tu n'es pas 50-50, tu n'es pas 101, 100-0, tu es à 50-50. Quand tu t'occupes de la maison et lui va au boulot, ce n'est pas du 100-0, c'est du 50-50. Faut bien le retenir, ça, les girls, hein. C'est du 50-50. C'est une forme de 50-50. Il y en a qui vont gérer la maison ensemble, travailler ensemble, machin. Ça aussi, c'est du 50-50. Mais tout est divisé à 50-50. Là, vous divisez vraiment la pomme en deux, la poire en deux. Il y en a un qui s'occupe de la maison, un du travail. Mais il y en a qui divisent en plus et du coup, tous les deux font le ménage, tous les deux s'occupent de la maison, tous les deux nanana. Mais pour moi, c'est assez choquant d'entendre des mecs qui ont une meuf, qui une femme qui travaille, qui a un 9-to-5, qui travaille dans une grosse boîte, qui a des responsabilités, et quand ils rentrent à la maison, ils sont en mode « je t'ai fait la vaisselle ». Je t'ai fait la vaisselle. Non, tu nous as fait la vaisselle. Ça n'a rien à voir. C'est aussi tes assiettes. Donc, j'avoue que parfois, je suis choquée par la charge mentale et par la non-sensibilisation, en fait, qu'on fait. Et moi, j'en ai grave parlé à ma mère. Ma mère, toute sa vie, elle a élevé mon frère comme un roi. Je sais très bien d'où ça vient. Je dis pas que toutes les familles sont ma famille, mais moi, là, c'est mon podcast, donc je raconte ma life. Mon frère, ça a toujours été un roi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans plein de choses. Voilà, un peu moins maintenant parce que j'ai un peu décoincé ma mère sur ces sujets-là. Mais toujours tout prêt, toujours tout fait, toujours tout mangé, toujours tout lessivé. Et quand je parle à mon frère et je lui dis, ouais, toi, tu voudrais être avec quel genre de femme? Il est grave en mode, ben, moi, déjà, il faut savoir quelle cuisine. Oh, je suis en mode, c'est bon, tu m'as saoulé, frère. Allez, hop, salut. Mais vous voyez, c'est vraiment ancré parce qu'en fait, comme ils grandissent dans une mentalité où ils ne voient pas les hommes faire, pourquoi ils reproduiraient ça? Pourquoi ils se rajouteraient de la charge mentale? Donc voilà. Ok. Donc, désolée, j'ai reçu un mail. Donc voilà, c'est vrai que toutes ces raisons-là ont fait que j'ai arrêté de dater des rebeux parce que soit j'étais fétichisée, parce que je suis une femme grosse, donc ils étaient en mode ouais, t'es grosse, donc ils te sexualisent tout de suite. Soit t'es pas mariable, donc pareil, ils ont pas de respect parce que dès que t'es pas mariable, tu mérites plus le respect. Ça, tu sais pas d'où ça sort. Tu sais que même si tu veux pas te marier avec moi, tu peux me respecter, babe. Ça, ils ont du mal parfois à le comprendre. Et puis voilà, il y a plein de choses qui ont fait que. Donc c'est dommage parce que, bah, comme je vous disais, I love it, mais c'est vrai que, bah, non, c'est mort. C'est mort. Et puis quand j'ai vu que. Désolée, j'ai eu un autre mail pour le travail. Mais du coup, c'est vrai que j'étais en mode, mais en fait, non, vous m'avez saoulé. J'ai envie de voir autre chose. Et franchement, le white love, c'est doux. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont douces. Il y a des meufs sur TikTok qui le disent, qui disent ouais, le white love, c'est trop doux. Et c'est vrai, tu te fais traiter autrement. C'est vrai. Alors, bien sûr, il y a des couacs. C'est un homme blanc, t'es une femme racisée, vous n'avez pas le même background. Il y a des choses sur lesquelles vous ne comprenez pas. Donc, bien sûr, prends pas un white vraiment coincé. Bah, soit prends-toi un rebeu carré, tu vois, ouvert d'esprit qui te ressemble, où tu vas te sentir épanoui, mago. Soit tu te prends un white os. Non, mais c'est vrai, je dis ça pour rire, mais en vrai, c'est vrai. Genre. Bien sûr, je vais pas prendre un white-house coincé, parce qu'il y a des choses culturelles qui s'enlèveront jamais, tu vois. Moi, je rentrerai jamais avec mes chaussures chez moi. Non, je ne laisserai jamais une chaussure à l'envers, tu vois. Je ne mangerai jamais un tagine avec une fourchette. Tu vois ce que je veux dire? Je ne ferai jamais ça. Je ferai le ménage pendant 6 heures quand j'ai des invités chez moi. Après, je pense que ça fait tout le monde. Mais moi, vraiment, les filles, par contre, on en parle du hack. Invitez des gens chez vous si vous avez la flemme de ranger. Invitez des gens chez vous. Vous allez voir, vous allez être comme moi. Vous n'allez pas dormir pour tout rendre parfait. Enfin bref, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plusieurs choses qui ont fait ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de meufs qui en témoignent. Je sais que c'est un sujet tabou. Je prends un risque en postant ce podcast. Mais en vrai, j'en avais besoin d'en parler avec d'autres personnes parce qu'en vrai, il y a un vrai sujet. Et surtout que, ouais, il y a beaucoup de meufs qui osent le dire, disent ouais, le white love, c'est doux. Pourquoi elles disent ça? Pas parce qu'elles ont envie de repousser leur culture, leurs origines, mais parce qu'il y a de la misogynie intériorisée. Il y a des trucs. Alors, il y a de. Ouais, il y a de la misogynie intériorisée et il y a des rabaissements qui sont faits entre femmes rebeux et mecs rebeux où elles vont ils vont clairement les rabaisser. Moi, je sais qu'après ce podcast, il y a très peu d'hommes. Il y en a quelques-uns, bien sûr, des mecs maghrébins qui vont venir m'écrire en mode meuf, trop bien, j'ai écouté ton podcast, j'ai réfléchi à ça. Mais je vous jure qu'en postant ce podcast, je vais avoir 80% des gens qui vont venir me voir en mode sale pute, sale pute, sale pute. C'est ce que je reçois tous les jours. Tous les jours, je me fais harceler par des mecs rebeux. Soit qui fantasment en mode viens, on baise, nanani, nanana, je te connais pas, frère, dégage. Parce que bah, tout ça, parce que je suis grosse. C'est que je parle de cul et qu'ils n'arrivent pas à savoir que sexologue, ça veut, c'est un métier. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un master pour être sexologue. Donc ils sont en mode ta gueule, ta gueule, ta gueule, viens, on baise, viens, on baise. Soit des autres qui vont m'insulter, genre ton père, qu'est-ce qu'il en penserait, nanani, nanana. Arrêtez de ramener les femmes à une figure masculine. Ton père, ton mari, ton frère. Et je suis pas eux, en fait. C'est, enfin, stop. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast a été bien interprété. Si j'ai fait des erreurs, s'il y a des choses que j'aurais dû dire autrement, dites-le moi. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment mon histoire en tant que femme maghrébine. Et en fait, ce genre de podcast est compliqué parce qu'on n'a pas du tout envie que des mauvaises personnes tombent dessus et alimentent le racisme contre les personnes arabes parce que moi, je le subis. Everyday comme vous, le racisme, bien évidemment, je vis en France, j'ai vécu à Bruxelles, le racisme, ça me connaît et je crois que vous aussi, mais je veux quand même parler de la place des femmes maghrébines dans la société et en amour parce que c'est encore différent. Donc voilà, girls, écoutez, j'espère que vous allez me faire des retours et qu'on va pouvoir papoter ensemble. Love et à mardi prochain, garce.